criminel. 9 janvier 1997, dans un fax, X1 évoque l'assassinat d'une autre adolescente, Miek, qui était prostituée par Newell et Tony lors d'un week-end chez la grand-mère de X1. 9, 11, 17 janvier 1997, trois premières auditions de X-Et. 7, une amie d'enfance de X1 entre les 10 et 14 ans, dont le père incestueux était ami avec les parents Louf et Tony selon X1. Elle confirme une partie du récit de Regina, mais est totalement dans le déni de ce qu'elle a subi. Elle déclare avoir été à Knock à l'âge de 10 ans. Elle décrit la villa de la grand-mère de X1, parle de sa relation avec Tony. X7 se montre en tout cas perturbée, déclare faire d'affreux cauchemars toutes les nuits, refuse d'être filmée ou photographiée, pense avoir des pulsions sexuelles en voyant sa petite fille nue dans son bain, et dit qu'elle a des flashbacks, des blackouts, encore à ce moment quand elle voit son père, visite desquelles elle revient vidée. Elle explique aussi que sa sœur a subi des agressions sexuelles. Elle ne va pas plus loin, contre toute vraisemblance, d'après son propre récit de la part de leur père. 14 janvier 1997, un témoin contacte le gendarme M, qui était à Neuchâtel, et est entendu ce jour-là par les gendarmes pour parler du château des Amerois, près de Bouillon, où des sacrifices d'enfants auraient eu lieu. Ce Hollandais, Robin D.R., tient ces informations de l'Américain Fritz Springmeier, qui n'a apparemment pas été entendu. Ce château n'a pas été montré à X1 lors de l'enquête. 28 janvier 1997, audition d'un témoin anonyme qui parle de magouilles de Zico, Dutroux et Diacosta Vianos, autour du trafic de voitures en échange d'armes, ainsi que d'un trafic de jeunes femmes et de mineurs depuis la Pologne, organisé avec une certaine Annie, patronne d'un bar appelé le Saint-Moritz, dans une ville près de Charleroi. Ces femmes transitaient par le Luxembourg, où elles travaillaient pendant environ un mois et demi. Elles étaient initiées à la prostitution et recevaient des rudiments de langue française. Dutroux a alors proposé à Annie de faire revenir des mineurs de Pologne. Ces trois personnes ont mis leur projet à exécution. Les jeunes femmes et les mineurs étaient enfermés dans une grande cave aménagée en cellules. Pour faciliter le passage du Luxembourg vers la Belgique, je sais que les intéressés disposent d'une protection soit au niveau de la police ou de la douane luxembourgeoise. L'immeuble où se trouve cette cellule est la propriété d'Annie. Il s'agit d'une maison de maître. Le témoin explique que depuis 2 ou 3 mois, plus personne ne serait passé dans cette cave. Cette Annie était, selon ce témoin, protégée par un juge de Charleroi et les filles ont servi notamment à des tournages de films au château de Fox-les-Tombes où traînait aussi Newell. 29 janvier 1997. Début des agissements suspects de conducteurs de Mercedes blanche aux abords des écoles. Plusieurs témoignages de parents remontent aux forces de l'ordre de différentes villes de Wallonie en l'espace de quelques jours. Les témoins évoquent des plaques d'immatriculation françaises qui s'avéreront être de fausses plaques. 1er février 1997, le juge Langlois inculpe Dutroux d'une nouvelle prévention à celle d'association de malfaiteurs, d'enlèvement de Sabine et de Laetitia, de l'assassinat de Weinstein. Il ajoute les viols de Sabine, Laetitia et Effieux et l'assassinat d'Anne et Effieux. Concernant les enlèvements de Julie et Mélissa, Dutroux nie farouchement aucune mention des assassinats de Julie et Mélissa. 6 février 1997, une réunion est organisée par la BCR à Charleroi sur la problématique des Mercedes blanches. 8 et 15 février 1997, audition de X1 au sujet du meurtre de Catherine de Kuiper, retrouvée assassinée le 19 juin 1992. X1 explique que Tony est venu la chercher un soir en l'absence de son mari, qu'ils ont laissé un type avec ses enfants et qu'elle a été amenée dans un château près d'Anvers où Catherine était attachée sur un lit. X1 explique qu'elle a été obligée de l'égorger sous la menace qu'ont eu ses enfants, selon elle pour l'obliger à se taire sur tout ce qu'elle avait subi. Le 1er mars 1997, le château a été identifié comme le château de K, qui appartient au baron de C. Elle a dit dans sa dernière audition être allée 15 à 20 fois dans cet endroit entre 1990 et 1995 et y avoir assisté à 6 ou 7 meurtres d'enfants et adolescentes, dont celui de Catherine. 12 février 1997, fax de X1 au sujet de Remakers, dont elle explique qu'il est un vrai pédophile, qu'il était un pourvoyeur d'enfants destinés éventuellement à être abattus avec des fournisseurs aux Pays-Bas. Il avait son propre circuit d'approvisionnement et de distribution d'enfants, dans un réseau connexe à celui Dutroux et Newell, mais selon X1, un peu moins puissant. Il était aussi chargé de livrer les enfants sur place, sans savoir à qui notamment, dans un club sadomaso à Bruxelles. 16 février 1997, audition en présence du procureur Bourlet du témoin VM1, devenu indicateur de la gendarmerie, déjà connu pour des braquages. L'inspecteur Yves Z suit son dossier depuis un moment. Il sait que VM1 a été victime de pédocriminels à partir de ses 9 ans, quand il a été envoyé dans un foyer où un juge des enfants venait le chercher les week-ends pour l'envoyer à des partous dans des villas de la région de Bruxelles. Il s'est ensuite mis à jouer un rôle actif dans ce réseau. Une fois devenu adulte, il a déclaré avoir rabattu des mineurs vers le Mirano. 18 février 1997. Rapport d'autopsie d'Anne Marshall, qui avait été retrouvée, les poings liés, un bâillon sur le nez et la bouche et un sac en plastique sur la tête, mais alors qu'elle était vivante. Elle a souffert de violences sexuelles vaginales, y compris probablement post-mortem. 20 février 1997, une étrange cache est découverte dans une maison de Molenbeek, dont les occupants ont disparu depuis septembre 1996. Les enquêteurs décrivent son système sophistiqué d'ouverture qui n'est pas sans rappeler celui conçu par Marc Dutroux. Le dossier a été confié au parquet de Bruxelles et il n'en a plus jamais été question. 24 février 1997, VM1 est menacé, probablement par des membres de la Sûreté de l'État. 26 février 1997, le cinéaste Jean-Marc Houdemont est victime d'un accident de voiture mortel au moment où il s'apprêtait à faire des déclarations peut-être importantes sur l'enlèvement d'Elisabeth Brichet, dont le dossier d'instruction est alors ouvert à Namur depuis 1989 et avant d'avoir livré le moindre élément concret. Houdemont était connu pour détenir des photos et cassettes pédophiles et avait été soupçonné d'avoir participé à l'enlèvement d'Elisabeth Brichet, notamment parce qu'au sommet, au moment de la disparition de la petite fille, il était domicilié non loin de chez elle, à Saint-Servais. En mai 1997, sa compagne avait passé plus de 2 mois en prison et était toujours poursuivie pour cet enlèvement. 27 février 1997, X1 reconnaît la maison où elle a vu Christine Van Hesse lors des 2 soirées de partouze à Woluwe-Saint-Pierre. 3 mars 1997, selon 3 quotidiens flamands, 5 hommes politiques francophones de tous bords auraient été cités par Conroth sous le huis clos de la commission d'enquête comme protecteurs de Michel Newell. La presse francophone emboîtera le pas à ses confrères néerlandophones et les citera à son tour. Parmi eux, il y avait Jean Coll, Serge Koubla, Paul van den Boynent et Jean-Claude van Kouwenberge. Les hommes politiques en question ont tous réagi, niant tous avoir jamais été en relation avec Newell, à l'exception de Van den Boynent, qui était alors à l'étranger. Le député PRL Jacqueline Hersent a accusé Claude Erdenkens, député PS, d'avoir sa part de responsabilité quant à ses fuites. Didier Reynders, futur Premier ministre, a été jusque-là qualifié de bouffon d'Andenne. 5 mars 1997, décès soudain du père Joseph Toussaint, apparemment d'une crise cardiaque, qui exerçait dans un village où se rendaient souvent à la fois Michel Martin et la compagne de Jean-Marc Houdemont, décédé à peine 10 jours plus tôt. Joseph Toussaint était justement, étrange hasard, le confesseur des 2 femmes et l'aumônier de la prison de Jamulx, où est passé Dutroux, devenu fervent catholique durant cette incarcération. Dutroux a donc beaucoup vu le père Toussaint, et le curé a ensuite fortement appuyé sa demande de libération conditionnelle. 6 mars 1997, le corps de Loubna Benaïssa est retrouvé à Bruxelles dans une malle en fer posée dans la cave de la station-service Q8 appartenant à la famille Desrochettes, pas très loin du domicile de ses parents. L'auteur de l'enlèvement et de l'assassinat, le pédocriminel connu Patrick Desrochettes, a été décrété irresponsable et n'a donc été jamais jugé. Un certain nombre d'éléments, par exemple la lettre anonyme parvenue à Neuchâteau en octobre 1996 et désignant la station Q8 de Desrochettes comme un lieu de présence de Dutroux, fréquentation de la station Desrochettes par Nioul, témoignage de riverains du Dolo, boîte à partouze fréquentée par Nioul, désignant Desrochettes comme l'ayant fréquenté, sont encore aujourd'hui à investiguer pour établir si les faits concernant Loubna sont à mettre en rapport avec les faits concernant les autres enlèvements d'enfants préoccupant Neuchâteau. 7 mars 1997, Marc Toussaint reçoit une note de fonctionnement, rapport disciplinaire, pour avoir travaillé à Neuchâteau sans avoir averti sa hiérarchie et est assigné à des tâches administratives. 24 mars 1997, plainte de X1 contre Nioul, Tony Juste B, pour viol de mineur de moins de 10 ans. La plainte cible en particulier les pressions exercées sur elle entre 1991 et 1994 pour qu'elle continue à participer au réseau et pour l'obliger à se taire. Son mari et ses enfants étaient également menacés. 28 mars 1997, rapport d'autopsie de Julie et Mélissa qui laisse un large doute sur la théorie de la mort de faim et de soif. Il est notamment écrit que, je cite, « Cette dilatation anale ne s'explique que par des faits de mœurs répétés. En jargon judiciaire belge, faits de mœurs égale violence sexuelle. Il y a aussi des traces de violences sexuelles répétées. Le rapport d'autopsie ne laisse pas de doute sur les violences sexuelles massives qu'ont dû subir les deux fillettes. Toute la question est, par qui, puisque Dutroux a passé la plupart du temps en prison. 14 avril 1997, premier rapport de la commission d'enquête parlementaire sur les manquements dans les enquêtes sur les disparitions d'enfants qui aboutit principalement à la décision de réformer les services de police, suppression de la gendarmerie et création d'une police unifiée. Au passage, la commission souligne qu'il serait intéressant d'approfondir le volet protection et énumère certains indices sur les protections envers Nioul. En dépit des instructions formelles, un service de police n'a pas transmis en temps réel à Neuchâteau un certain nombre d'informations concernant M. Nioul. Il ressort de déclarations de témoins que M. Nioul avait des liens avec les maisons de débauche de Bruxelles, ainsi que des contacts avoués avec M. Lelièvre, notamment au sujet de la transformation de l'habitation de ce dernier dans le but d'y exploiter une maison de débauche. Il se serait prévalu dans ce cas de son statut d'expert judiciaire auprès des tribunaux de Bruxelles. Certains membres d'un service de police admettent qu'ils connaissaient M. Nioul et savent qu'il participe à des parties fines. Ils connaissent également l'exploitant du Dolo, connaissent certains suspects en matière d'affaires de mœurs et sont amis d'un avocat qui a été suspendu. Il s'avère qu'un corps de police a informé préalablement l'exploitant du Dolo des devoirs d'enquête dont il allait être l'objet. Des témoins déclarent aussi sous serment que Nioul était protégé par deux collaborateurs de l'entourage d'un ancien ministre. Le manque manifeste de réaction d'un corps de police en ce qui concerne M. Nioul contraste fortement avec les efforts déployés par certains membres d'un même corps en vue de s'introduire dans la cellule de coordination de Neuchâteau. Et il apparaît que M. Nioul a également été en mesure, par le passé, d'influencer les décisions en matière de libération conditionnelle et de permis de séjour. Sur les protections envers Dutroux. Selon un témoin, un policier connaissait Marc Dutroux depuis fort longtemps, depuis 1985, et l'avait probablement ainsi aussi informé. Le magistrat national, chef des magistrats belges, est intervenu pour écarter le policier en question de l'enquête menée à Neuchâteau. Le policier est intervenu à plusieurs reprises dans le parcours judiciaire de Dutroux pour écarter de lui les soupçons et retarder son arrestation. On peut se demander comment le couple Dutroux-Martin a pu bénéficier d'une protection sociale aussi large en échappant manifestement à tout contrôle. Il convient également de se pencher sur le rôle qu'un policier a joué en octobre 1996 lorsqu'il a déconseillé à un juge d'instruction d'effectuer une perquisition chez le nommé F au sujet d'un lien avec la pornographie hard aux Pays-Bas. Cette affaire a coûté sa carrière à Melchior Wathelet, ministre de la Justice en 1988 à 1995 et responsable de la libération conditionnelle de Dutroux en avril 1992. Le quotidien La Libre Belgique écrivait en avril 2004 « Depuis, Melchior Wathelet a plus ou moins disparu de la scène politique belge pour officier à la Cour de justice des communautés européennes à Luxembourg. En 2003, il ne sera pourtant pas reconduit dans ses fonctions. Sans mandat et sans perspective électorale, il n'a pas plus l'intention de se présenter aux élections régionales. » 22 avril 1997, la presse fait état d'un nombre de 6500 à 7000 cassettes saisies dans le cadre de l'enquête Dutroux & Co. depuis la mi-août 1996. Selon la dernière heure, deux tiers en auraient déjà été examinés. Concernant plus particulièrement les cassettes trouvées chez Dutroux, seuls trois délivrent des images de faits de mœurs commis sur des jeunes Slovaques. Gilbert Dupont, de la dernière heure, poursuit son article en ces termes. À ce stade, les enquêtes sont donc loin de fantasmes décrits au tout début de l'affaire. À l'époque où les médias pensaient qu'on verrait sur des cassettes trouvées chez Dutroux des personnalités politiques dépravées impliquées dans des balais roses ou bleus, toujours selon Dupont, on apprend que d'autres cassettes saisies proviennent en fait d'un dossier séparé, traité à Charleroi, où il est aussi question des Pays-Bas. 17 cassettes montrant des faits de mœurs ultra-violentes et très réalistes avec des enfants pour victimes. 25 avril 1997, assassinat de José Step, un militant d'extrême droite qui disait avoir des infos sur Dutroux. Il a pris contact avec un journaliste à qui il devait remettre des cassettes sur lesquelles on verrait notamment Dutroux et des notables de Charleroi, dont des politiciens connus en train de violer des enfants. Step avait confié peu avant à un ami qu'il craignait sérieusement pour sa vie. Quelques jours avant de rencontrer ce journaliste, il a été retrouvé mort avec son masque à oxygène, dans lequel il n'y avait pas d'oxygène, mais du rohypnol. 30 avril 1997, le juge Van Espen demande une expertise psychiatrique de Regina Louf par 5 experts de spécialités différentes de l'Université catholique de Louvain. Ils doivent notamment vérifier si elle a un trouble de la dissociation et son témoignage était valable. Il confirme qu'elle a subi des abus sexuels massifs, graves et répétés dans l'enfance. Il conclut, après lui avoir fait subir une trentaine d'heures d'entretien, à un trouble dissociatif, à une personnalité borderline, ce qu'elle n'a jamais caché et qui confirme encore une fois ses accusations. L'un de ses experts, le professeur Igot, a expliquait ensuite que son témoignage devait être pris au sérieux et vérifié. Mai 1997, certains journalistes bien introduits reçoivent des disquettes contenant les PV de synthèse de l'enquête. 15 mai 1997, le témoin X2, malmené dans les médias et par la justice, refuse de continuer les auditions. Elle explique qu'elle n'a plus la force psychologiquement. 26 mai 1997, le témoin X3, issu d'une famille nombreuse défavorisée, qu'il a livré au réseau, décrit des viols organisés entre 1950 et 62. De 3 à 8 ans, elle était l'enjeu de parties de cartes chez ses parents. Puis les violences sont augmentées et elle a été prostituée par le réseau. X3 cite une dizaine de noms qu'on trouve dans le dossier, dont celui de Van Dijbonnet et de son ami le promoteur Charlie D. À la cellule de Neuchâtel, on lui expliquera vite que tout cela est prescrit et ne fera pas l'objet d'une procédure pénale. Mais on lui dit et répète jusqu'en 1999 qu'une enquête des plus sérieuses est menée à propos de ses déclarations. 31 mai 1997, audition de X1 à la BSR Le Gand. Elle explique que Tony les a prostituées, elle et sa copine Claude, dans un bar appelé La Paix à Gand. Un bon de commande de ce bar auprès de Tony a aussi été retrouvé. 2 juin 1997, audition de X3 sur le volet famille royale. Elle cite plusieurs hommes de la famille royale dans les années 1950 et 60. Elle explique qu'à 10 ans, elle a été obligée d'initier d'autres enfants et qu'après 12 ans, elle a été introduite dans un réseau de pédophilie avec trois types de soirées. Les soirées photos, qui étaient relativement soft, sans meurtre en tout cas, où elle était prostituée auprès de différents pédos. Les soirées spectacles, pour lesquelles elle était droguée et amenée avec d'autres enfants à différents endroits cossus. Des viols étaient organisés, souvent très violents. Les enfants étaient alors confiés à un médecin du réseau. Il pouvait y avoir des parties de chasse dans les parcs des villas et châteaux où avaient lieu ces barbaries. Elle décrit des scènes de cannibalisme des victimes, des scènes de torture, de nombreux meurtres d'enfants et adolescents, rituels ou non. Et les soirées mondaines, dans des demeures luxueuses avec de grands murs d'enceinte où étaient présents les mêmes protagonistes, mais où la mise en scène est celle d'un dîner mondain avec des enfants comme plat et de nombreux serviteurs. Là aussi, un ou plusieurs enfants étaient torturés et massacrés par les adultes. 26 juin 1997, tentative d'assassinat de Marc Toussaint. Il dépose plainte. 2 juillet 1997, premier rapport de relecture des 17 premières auditions de X1 qui avaient été enregistrées. C'est ce rapport qui a servi de base à l'éjection de l'équipe de Betz qui avait commencé l'enquête sur le réseau et les témoins X. 11 juillet 1997, suite aux relectures des témoignages des témoins X demandés par l'état-major de la gendarmerie, le juge Langlois demande à son tour une relecture et tous les PV réalisés suite aux auditions des témoins X, X1 et les autres. 25 août 1997, l'équipe de Debatz est écartée de l'enquête officiellement. Leur supérieur, le commandant Jean-Luc Duterne, responsable de la cellule de Neuchâteau, leur reprochait d'avoir manipulé le témoignage de X1 et les accusait de faux en écriture publique. Duterne a agi à la demande du juge Langlois. Marc Toussaint, le 23 septembre 1997, remet sa démission. N'ayant toujours pas eu de réponse un mois plus tard, il ne se présente plus à son travail. Le 5 novembre, il reçoit un courrier de l'état-major de la gendarmerie lui demandant la raison de son absence injustifiée. 14 novembre 1997, l'état-major de la gendarmerie demande au ministre de l'Intérieur de le licencier par désertion. 18 novembre 1997, on annonce le décès du gendarme Gérard Vanès de Dinan. Selon son épouse, il était accablé par les suspicions de protection qui pesaient sur lui dans l'affaire Dutroux. Il avait été appréhendé le 30 septembre 1996 et inculpé pour association de malfaiteurs impliqués notamment dans un trafic de drogue, puis libéré le 4 octobre 1996. Le comité Julie et Mélissa s'interrogeait. Vanès était sans conteste une relation du tandem Newell-Lelièvre. À ce jour, aucune explication claire n'a encore été apportée concernant le rôle de l'ex-gendarme dans l'affaire Dutroux. Fréquemment cité par Newell dans le cadre de trafic de drogue, pilule d'XTC, et de véhicules auxquels semblent avoir participé certains protagonistes de l'affaire Dutroux, le rôle obscur du gendarme Vanès n'a toujours pas été éclairé. Cherchait-il par le biais de Newell et Lelièvre à remonter une filière, telle que l'indique Newell, ou plus plausible, a-t-il servi de couverture protectionnelle aux agissements de Newell, Lelièvre et peut-être Dutroux, dans les enlèvements d'enfants tels que le suggèrent actuellement certains avocats de partie civile. On notera aussi que Gérard Vanès, ce gendarme que son indicateur Newell avait cherché à joindre la veille de son arrestation, était intervenu le 25 avril 1996 pour les perquisitions chez Michel Fourniret suite au vol d'armes à feu à un poste de police à la frontière. Certains acheteurs des armes ont été retrouvés en Belgique, mais l'enquête n'a pas abouti à la condamnation de Fourniret. 27 novembre 1997, Annie B., qui est toujours inculpée pour association de malfaiteurs dans le dossier de Neuchâteau, se voit à nouveau inculpée par le juge bruxellois Leys du chef d'escroquerie et usurpation de titres dans le dossier Cadreco du nom de cette société de conseil juridique pour étrangers qu'elle avait créée en 1986. Spécialisée en droit des étrangers, elle aurait notamment escroqué plusieurs personnes en séjour illégal à qui elle demandait des honoraires de 50 à 100 000 francs pour régulariser leur situation. Mais jamais les clients n'obtenaient leurs papiers. Annie B. avait déjà été condamnée en 1989 à 2 ans avec sursis pour des faits de même nature. 11 décembre 1997, procès à Dinan de Casper Fier, qui trafiquait de la drogue avec Newell et le Lièvre, pour le vol du 4x4 d'un client de la station-service de Flier à Anté. Le dossier a été séparé car il a été considéré que ce vol n'avait rien à voir avec les affaires de Dutroux. 10 janvier 1998, la presse sort le témoignage de X1 et la place comme témoin principal dans l'affaire du meurtre de la champignonnière. 13 janvier 1998, dans le cadre de leur enquête, les gendarmes de l'inspection entendent un témoin capital de la tentative d'assassinat dont a été victime Marc Toussaint en juin 1997. Cette audition ne sera pas versée au dossier. Cette audition aurait permis de mettre le dossier à l'instruction et d'ouvrir une enquête pour tentative d'assassinat. 22 janvier 1998, X1 révèle son identité et montre son visage sur les conseils du juge Van der Mirsch, qui était chargé du dossier Christine Van Eys. Regina Louf commence à parler en public de son passé sans citer les noms. 30 janvier 1998, conférence de presse au parquet de Bruxelles. Le juge Van der Mirsch, le juge Langlois et le procureur du roi de Gemep déclarent qu'aucune preuve ne vient étayer les déclarations de X1, notamment en ce qui concerne la champignonnière. Début février 1998, Marc Toussaint reçoit les disquettes contenant les PV de synthèse de l'enquête des mains du gendarme Michel Klipp, de l'équipe de Batz. 17 février 1998, deuxième rapport de la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Dutroux-Newell. On ne parle plus de protection au plus haut niveau de l'État, mais d'estompement de la norme. 15 mars 1998, création des listes blanches, partis politiques citoyens en vue des élections législatives de mai 1999. Il s'appuie au départ sur les 135 comités blancs mis en place dans le pays. Marc Toussaint, qui a été l'un des organisateurs, explique dans son livre « Tous manipulés », je cite, « L'idée n'était pas de viser un quelconque pouvoir. Il s'agissait de permettre un contrôle citoyen des institutions, notamment par le biais d'une présence au Parlement et d'une participation à l'élaboration de projets de loi. Inutile de dire que cette idée n'a pas fait beaucoup d'heureux au sein du monde politique. » Une vaste campagne de dénigrement a suivi à l'intérieur et à l'extérieur des comités blancs. 31 mars 1998, ouverture officielle de Child Focus par Albert, devenu roi en 1993. Le projet a été initié au tout début par les familles de victimes et les citoyens, dans la suite de la marche blanche du 20 octobre 1996. Mais très vite, le leadership est passé aux politiques qui cherchaient à neutraliser les comités blancs, de citoyens passablement énervés, et dès 1997, la présidence du conseil d'administration de l'organisation a été confiée à Daniel Cardon de Lichtbuer, banquier de la banque Bruxelles-Lambert, fanatique de l'Europe technocratique dans laquelle il est impliqué depuis la CECA, en 1958, et membre du très élitiste Cercle de Lorraine. De Lichtbuer, qui a dirigé Child Focus jusqu'en 2007, est aussi proche de Van den Boynent et du roi Albert, qui l'a anobli en 1998 en lui donnant son titre de baron. C'est un des fondateurs du Cercle de Lorraine, sorte de Rotary belge hyper select. De 2006 à 2009, il a été nommé président de l'International Centre for Missing and Exploited Children. Child Focus a rapidement montré son inefficacité, se contentant de faire coller des affiches avec les photos des enfants sur la voie publique. Tous les signalements étaient directement à la justice ou à la police et la boucle était bouclée. Force est de constater que depuis que Child Focus existe, de réseau, il n'a plus jamais été question et les citoyens s'en sont détournés. 28 avril 1998, confrontation dans le bureau du juge entre X1 et Tony, qui est devenu son souteneur quand elle avait 12 ans, et jusqu'à ce qu'elle fuit le réseau à 16 ans. Il avoue avoir eu des relations sexuelles avec elle quand elle était mineure, mais nie l'avoir prostituée dans le réseau. Cette plainte a été transférée au tribunal de Neuchâtel, où l'enquête sur Dutroux et consorts a été limitée. Tribunal qui s'est déclaré incompétent le 26 mars 2003, seulement constatant soudain que Tony ne résidait pas dans l'arrondissement. 23 avril 1998, au même moment à 17h, les trois procureurs généraux, Bruxelles, Gand et Anvers, décident que Regina Louf n'est pas crédible et clôturent définitivement l'ensemble des dossiers connexes, appelés dossier X. Ce 23 avril 1998 est aussi le jour de l'évasion surréaliste de Dutroux lors d'une consultation de son dossier au palais de justice de Neuchâtel. Marc Toussaint rapporte cet épisode dans son livre « Tous manipulés ». Après avoir agressé le policier censé le surveiller et lui avoir pris son arme déchargée, Dutroux s'enfuit, vole une voiture et se rend quelque part dans une forêt, alors qu'il aurait pu rouler jusqu'à la frontière française qui se trouvait à quelques kilomètres seulement. D'après la version officielle, il se serait ensuite embourbé dans un chemin forestier, chose incroyable, les commissariats de police des environs immédiats, c'est-à-dire d'Herbemont et les contrées avoisinantes, ne sont même pas avertis de son évasion. C'est pourtant là que se trouvent les agents qui connaissaient le mieux la région. Explication de la gendarmerie, impossible de prévenir tout le monde. Cette évasion provoque la démission des ministres Johan van de Lanotte et Stefan de Klerk. 24 avril 1998, confrontation entre X1 et Émile D, le père de son ami Claude, assassiné dans le réseau, qui a dissimulé l'assassinat et les viols de sa fille et attaque X1 qui ne dit plus rien. L'état-major de la gendarmerie fait savoir que la démission du général Derrider, chef de corps, n'est pas à l'ordre du jour. 25 avril 1998, Le Lièvre parle du rôle de Newell dans le trafic de jeunes filles d'Europe de l'Est. Il devait donc s'agir de faire venir des filles en Belgique pour qu'elles se prostituent en Belgique. Je tiens à préciser qu'il ne s'agissait pas de demander aux filles de se prostituer en rue, mais bien de se prostituer dans des clubs ou des maisons particulières, et que les filles devaient avoir une bonne présentation et ne pas être vulgaires. Newell était exigeant à ce niveau-là. C'est lui qui devait s'occuper de recevoir les filles, de les habiller, de les préparer, puis de les placer dans un club. C'est bien Newell qui aurait dû garder les passeports des filles et qui devait s'occuper de toute l'intendance et du paiement, le propriétaire du bar rétrocédant directement les gains des filles à Newell, Newell devenant par ce fait le maquereau des filles ramenées par Dutroux. Newell n'a jamais précisé l'identité du patron du bar auquel il faisait allusion comme étant son contact privilégié dans ce secteur-là et sur lequel il semblait avoir une certaine mainmise. Il ne m'a jamais non plus précisé la localisation. Dutroux a confirmé dans une audition du 24 août expliquant « Newell cherchait des filles pour la prostitution. Il voulait des Tchèques ou des Slovaques et promettait 30 000 francs belges par fille. » 28 avril 1998, démission de général Derrider, chef de la gendarmerie belge, officiellement suite à l'évasion de Dutroux. 6 mai 1998, dernière audition de la mère de X1 qui finit par confirmer que sa fille a eu des relations sexuelles avec un certain Tony dans sa jeunesse et qu'elle avait donné la clé de la maison à ce Tony qui venait régulièrement. 24 mai 1998, signature de l'accord Octopus, modification de l'article 184 de la Constitution belge qui précise que l'organisation et les attributions de la gendarmerie font l'objet d'une loi en prévention de la suppression programmée de la gendarmerie. Marc Toussaint, le 4 juin 1998, est arrêté et déféré devant le juge d'instruction Pignolet pour violation du secret d'instruction et recel de PV. 8 juin 1998, les listes blanches se retirent face à la pression des politiques. 22 août 1998, Le journal flamand De Morgen parle du témoignage d'un détenu de la prison de Louvain, disant qu'un trafiquant d'enfants lui a montré une photo polaroïd de Mélissa dans un café de Marcinelle, proche de chez Dutroux. 1er octobre 1998, rapport d'expertise psychiatrique de Michel Lelièvre. Selon les psychiatres qui l'ont examiné, c'est un psychopathe dangereux pour la société, que s'il exprime des regrets, en éprouve surtout pour son propre sort. Les experts concèdent qu'il est responsable de ses actes et ne pourra donc bénéficier d'une mesure d'internement. 8 octobre 1997, Le Matin annonce la parution en français du livre de René de White, journaliste économiste du Financial Economische Tijd, consacré à l'empire de la famille de Clercq, dans lequel Newell apparaît comme un fournisseur de femmes haut de gamme et relais francophone du lobbyiste véreux anverois Raoul Stick, recondamné aujourd'hui en appel, lequel a bâti son réseau de relations bruxelloises dans le milieu d'Aldo Vastapan et Paul van den Boynent. 15 novembre 1998, meurtre de Gina Pardens, qui travaillait avec l'association de défense des enfants du groupe Morcoven. Sa voiture a été sabotée, probablement au niveau des freins. Elle travaillait notamment sur l'affaire Manuel Childwald, un jeune Allemand exploité dans les bordels pédocriminels des Pays-Bas, et détenait un snuff movie tourné en Belgique dans lequel on reconnaîtrait un ancien associé de Newell. Elle avait reçu plusieurs menaces de mort, était suivie et notait les plaques. Parmi celles-ci, il y avait le véhicule d'un ancien chauffeur du Dolo. Elle devait faire une déposition le lendemain, le 16 novembre. Puisqu'elle est étrangement revenue dans l'actualité, on va reparler aujourd'hui de l'affaire Manuel Childwald. Ce dossier est très intéressant car il montre que les réseaux pédocriminels anglais, belges, hollandais, français et allemands sont reliés les uns aux autres. 7 novembre 1998, loi sur la réforme des polices, donc suppression de la gendarmerie. 18 décembre 1998, mort de Fabienne Jopard, veuve du ferrailleur décédé prématurément Bruno Tagliaferro, assassiné en 1995. La protection policière que le juge Conroth lui avait mise en place venait d'être levée peu après la nomination du juge Langlois. L'enquête conclut au suicide, contre toute évidence. Fabienne Jopard se serait aspergée de méthanol, aurait remis la bouteille sur le meuble à côté de son lit et se serait ensuite immolée, non sans avoir pris soin de mettre les pommes de terre à cuire sur le réchaud et de faire tourner le lave-vaisselle. 27 et 28 avril 1999. Rétractation de Van der Elst qui avait fourni un alibi à Newell pour l'enlèvement de Laetitia Delez le 9 août 1993 à Bertrix où Newell a été vu par 4 témoins la veille pour les repérages. Pourtant, jusqu'à la fin, la justice a fait comme si cet alibi tenait toujours. En juillet 1999, il explique qu'il est fort possible que je me sois trompé en ce qui concerne la date à laquelle Newell était venu avec un Africain pour nettoyer mon appartement à Schaarbeek. Et qu'il est plutôt venu le lendemain. 14 juillet 1999, l'avocat général de Liège, Hubert Massa, qui était en charge de l'affaire Dutroux, se tire une balle dans la tête. Il travaillait aussi sur le meurtre d'André Kouls. 25 novembre 1999, X1 annonce qu'elle va déposer plainte contre X avec constitution de partie civile contre les enquêteurs en charge des relectures de son témoignage, notamment en raison des irrégularités et des innombrables fuites vers la presse durant cette opération. 16 décembre 1999, libération de Newell. 20 janvier 2000, ordonnance de non-lieu dans la procédure contre l'équipe de Betz. 2000, interview de Newell en caméra cachée par des journalistes français. Il leur explique que la mort du ministre André Kouls en 1991 était liée à l'affaire des tueries du Barban, parle du système de corruption et des partouzes avec des gens du gratin. 9 octobre 2000, le sénateur Franz Lozzi demande la création d'une commission d'enquête parlementaire pour déterminer dans quelles conditions les relectures ont eu lieu et plus généralement pourquoi les enquêteurs Patrick De Batz et Émile Bill à qui plusieurs témoins avaient pu se confier, avaient été écartés de l'enquête et des témoins dont ils avaient commencé à récupérer, recouper et vérifier les informations. 23 novembre 2000, X1 se constitue partie civile contre Tony, Newell et X devant le juge Langlois. 1er janvier 2001, réforme des polices, abolition de la gendarmerie et création d'une police unique, fédérale et locale. 13 mars 2001, audition de G. De Vries, qui suggère une association d'aide aux enfants, qui gère, pardon, une association d'aide aux enfants victimes d'abus sexuels à Amsterdam. Il relate le témoignage qu'il a reçu ainsi que Marcel Verfsozen de l'association Morkoven de la part d'un jeune pédocriminel hollandais, Robert Jan Warmerdam, qui a identifié plusieurs victimes des fichiers de Zandvoort. Warmerdam lui a expliqué qu'au bar le G Force, lieu de rencontre connu mondialement dans le milieu SM, il a croisé plusieurs fois Dutroux entre 1995 et 1996, juste avant qu'il soit arrêté. Selon G. De Vries, Robert avait vu Dutroux parler à Eric Nordholt du fait que lui, Dutroux, avait peur d'être attrapé par la police et qu'il avait peur d'être dénoncé pour les disparitions d'enfants en Belgique. Selon ce témoignage, Dutroux et Nordholt, qui était alors responsable de la police de la région et membre du Parti Socialiste, parlait aussi d'un circuit de fraude entre les Pays-Bas, l'Allemagne et l'Angleterre. Verfsozen a confirmé que Warmerdam a demandé à parler de Dutroux comme un habitué du G-Force, où il a rencontré plusieurs fois Nordholt. Le patron du G-Force était un pédocriminel américain dénommé John Edward Mulaney, qui aurait tué plusieurs enfants lors de viols sadiques. Warmerdam a aussi déclaré avoir croisé dans le milieu pédo le jeune Manuel Schallwald, disparu à Berlin en juillet 1993, et qui aurait été tué peu de temps après lors d'une soirée avec des personnalités. 22 octobre 2001, saucissonnage de l'affaire Dutroux par la Chambre des mises en accusation de Liège, avec d'un côté les 6 enlèvements et 4 meurtres, et de l'autre tout le reste, notamment l'aspect réseau. Les analyses génétiques des éléments retrouvés dans les caches et véhicules de Dutroux ne seront donc pas examinées pour le procès des enlèvements qui aura lieu 3 ans plus tard. 24 octobre 2001, nomination de Willy De Ridder, ex-commandant de la gendarmerie belge, au poste de directeur exécutif des services de police d'Interpol. Il avait été révoqué de la gendarmerie en avril 1998, bien qu'aucune faute personnelle ne peut lui être imputée, comme il le disait le Premier ministre belge Jean-Luc Dehaene. Mars 2002, procès de Dutroux et Charbonnier pour une escroquerie à l'assurance qui ont pris respectivement 3 et 2 ans de prison. En avril 1992, Charbonnier avait, à la demande de Dutroux, mis le feu à sa maison à la rue Jules de Stray à Marchiennes au Pont. Cette escroquerie à l'assurance avait permis à Dutroux d'empocher 1,3 million de francs belges. 14 novembre 2002, pardon, le procureur Bourlet répond à Newell sur l'affaire des pilules d'ecstasy et son rôle trouble d'informateur de certains gendarmes. Il écrit que le dossier établit pour le ministère public que Newell, agissant comme informateur de la gendarmerie, a joué un double jeu à l'occasion de l'affaire Walsh. Il a dans un premier temps rempli particulièrement ses engagements vis-à-vis des forces de police en signalant que le trafiquant Walsh arrivait en Belgique porteur d'une importante quantité de drogue. Dans un second temps, s'apercevant que Walsh était en possession de deux sortes de drogue, il a détourné à son profit les 5000 pilules d'ecstasy qu'il a sorties du coffre de la voiture du trafiquant et qu'il a cachées d'abord dans un appartement avec l'accord de Walsh en envisageant une commercialisation à leur profit mutuel, tout en laissant partir le trafiquant vers le piège qui lui était tendu avec les 10 kilos d'amphétamine. 16 janvier 2003, Karine Russo, maman de Mélissa, est renvoyée devant le tribunal correctionnel par la chambre du conseil pour dénonciation calomnieuse à l'égard de l'ancien chef de l'enquête de l'affaire Dutroux. 17 janvier 2003, la chambre du conseil blanchit Michel Newell pour les enlèvements et renvoie 3 des 4 inculpés devant la cour d'assises, Marc Dutroux, Michel Martin et Michel Lelièvre. Newell ne figure plus dans l'association de malfaiteurs. Seul Dutroux est poursuivi pour l'enlèvement de Julie et Mélissa. Lelièvre n'est pas poursuivi pour leur séquestration. Seul Dutroux est accusé de l'assassinat de Weinstein. 20 janvier 2003, Marc Toussaint est condamné à 6 mois de prison avec sursis. pour violation du secret de l'instruction et recel de PV. Appel du procureur Michel Bourlet suite à la décision de la Chambre du Conseil le 17 janvier. 27 février 2003, le commissaire de la PJ de Bruxelles, Georges Marnette, est acquitté à l'issue du procès sur les fuites de l'affaire Graffet-Diroupot, dont il a été soupçonné par la justice. En effet, cette affaire ayant servi à jeter le bébé avec l'eau du bain, s'est révélée être fort opportune pour détourner l'attention du réseau pédocriminel. 30 avril 2003, la Chambre des mises en accusation renvoie Newell en cour d'assises pour avoir donné des pilules d'XTC à Lelièvre 2 jours après l'enlèvement de Laetitia. 26 juin 2003, arrestation de Michel Fourniret à Ciney près de Namur, par pur hasard. Il venait encore d'enlever une mineure sur le bord de la route, mais celle-ci a pu s'échapper et être récupérée par une automobiliste. Elles ont ensuite croisé le véhicule de Fourniret et noté la plaque d'immatriculation. Très rapidement, on nous explique qu'il n'y avait aucun lien entre Fourniret et Dutroux, alors que les deux ont exactement le même profil et étaient en partie actifs sur la même zone. Plusieurs témoignages laissent à penser que les deux prédateurs isolés étaient plus proches qu'il n'y paraît. La piste n'a en tout cas jamais été exploitée par les autorités belges, ni a priori françaises. 15 janvier 2004. Le député Albert Mailleux, aujourd'hui décédé, rencontre un individu anonyme et son avocat, qui est un ancien avocat de Dutroux décédé depuis également. Cet individu révèle avoir en sa possession une cassette vidéo qui lui a été donnée par une personne proche de la sûreté belge, les renseignements, dont il a fait une copie. Sur cette cassette, on verrait selon lui les derniers instants de Julie et Mélissa, subissant des tortures et des viols par un groupe de 10 à 12 adultes dont certains sont identifiables et d'autres sont masqués. Selon l'individu, le film montre clairement les deux fillettes pendant qu'elles sont violées par un politicien PS de niveau fédéral qui serait parfaitement reconnaissable. Il explique aussi que les petites finissent empalées, ce qui correspond aux constatations des médecins légistes. Mais cet individu explique qu'il compte faire chanter le cardinal Daniels, qui était le premier prélat de Belgique, candidat à la succession de Jean-Paul II en 2012, ce qui agace le très catholique Mailleux. Il va donc de ce pas alerter Daniels de l'existence de cette cassette. 5 février 2004, Mailleux rencontre Daniels et lui explique ce qu'il a entendu le 15 janvier et donne le nom du politicien PS, mais il a été étonné, car Daniels reste de marbre devant le récit atroce des mises à mort des fillettes. Il fait une courte pause, et c'est alors que Daniels se demande « Suis-je légalement dessus ?» Et Mailleux lui répond que non, évidemment. Le prélat insiste et Mailleux doit lui promettre que lui n'a pas vu cette vidéo, puis il lui demande de ne parler de tout ça à personne. Mailleux ira voir en mars 2004 plusieurs responsables du Vatican, dont Ratzinger, le futur pape, à qui il explique les faits. Mais il semble qu'ils avaient déjà la copie de la fameuse cassette ainsi que le dossier d'instruction de l'affaire Dutroux. Ce qui n'a, semble-t-il, rien changé puisque Daniels n'a pas été écarté pour autant de la course à l'investiture papale. Il a envoyé une lettre à la cour d'assises d'Arlon, qui s'est bien gardé d'en tenir compte. Une cassette vidéo du meurtre de Julie et Mélissa existerait bel et bien. En 2004, un député, Albert Mailleux, écrit au président de la cour d'assises d'Arlon, où est jugé le dossier Dutroux bis. Il lui parle d'une cassette vidéo du meurtre des deux petites, qui aurait été visionnée par une connaissance. 1er mars 2004, début du procès Dutroux, Lelièvre et Martin. Et dans une moindre mesure, Newell, qui comparaît libre, à Arlon. Gino et Karine Russo ont décidé de ne pas se déplacer en protestation contre la mascarade judiciaire. 18 mars 2004, les débats ont notamment porté sur les micro-traces ADN retrouvées dans la cache de Marcinelle où ont été séquestrées Julie et Mélissa, ainsi que Sabine et Laetitia. Ces traces, qui pour la justice se limitent à quelques cheveux dont la quantité officielle n'a cessé de se réduire, n'ont pas été étudiées car cela aurait coûté trop cher selon la justice. En décembre 2003, le journaliste de Morgan Douglas de Coninck a écrit à ce sujet. On a trouvé dans la maison de Marcinelle des traces génétiques d'au moins 4 personnes inconnues de sexe masculin et de 5 personnes inconnues de sexe féminin. Leur profil ADN ne correspond à celui d'aucun des suspects du dossier du trou. C'est ce qui ressort du rapport 6700/1 du laboratoire judiciaire de l'ancienne PJ de Namur. Le rapport sur lequel De Morgan a pu mettre la main contient des indices de ce que plusieurs individus étaient impliqués dans les enlèvements d'enfants qui ont ébranlé le pays en 1996, mais également de ce que les jeunes filles qui ont séjourné dans la maison de Marcinelle étaient plus nombreuses qu'on ne le pensait jusqu'ici. En tout, le rapport identifie jusqu'à 26 traces d'ADN inconnues dans les maisons et les voitures de Dutroux. Mais le profil ADN est parfois incomplet, de sorte qu'on n'a pas pu savoir si ces traces provenaient d'une ou de plusieurs personnes, encore moins si elles provenaient d'un homme ou d'une femme. Ces traces n'avaient même pas été comparées à celles des suspects quand le procès s'est terminé, et ça n'a d'ailleurs jamais été fait. 19 mars 2004, l'audience porte sur les décès de Julie et Mélissa dont la version officielle veut qu'elles soient mortes de faim entre décembre 1995. Quand le gendarme Michaud a entendu les voix dans la cave de Dutroux et le 20 mars 1996, quand Dutroux explique qu'il les a retrouvées mourantes de faim. Cette thèse a été mise à plat par les 3 autopsies consécutives et par le débat lors du procès. Un nutritionniste est venu expliquer que pour que les 2 fillettes puissent survivre dans la cache dont, selon Langlois, elles ne sont jamais sorties entre le 9 décembre 1995 et le 20 mars 1996, soit 103 jours, il aurait fallu qu'elles disposent de 150 litres d'eau chacune. Mais la quantité d'eau disponible, selon les recoupements dans les déclarations de Dutroux et Martin, était insuffisante. D'autre part, le volume de 300 litres d'eau en bidon ou en bouteille aurait occupé toute la cache. Si elles ont survécu dans cette cache, c'est parce que quelqu'un est venu leur apporter de l'eau. À ce propos, Marc Toussaint écrit dans son livre « Tous manipulés » Le juge Langlois a soutenu contre vents et marées que les fillettes avaient pu survivre seules dans la cage pendant toute cette période. Il sera finalement établi lors du procès que ce n'est pas le cas. Elles étaient donc mortes quand Dutroux a été libéré. Problème. 3 experts médicaux légaux se sont accordés pour dire qu'elles avaient subi des sévices particulièrement atroces. Or, le problème réside dans le fait que si Dutroux était en prison, il n'a pas pu abuser des fillettes. Donc, nous ne sommes pas en présence d'un prédateur isolé. Le juge Langlois a trouvé la parade en faisant appel à un expert français qui, sur base des photographies et sans voir les corps, déclarera qu'une distension vaginale comme celle relevée peut s'expliquer par des phénomènes de putréfaction. 29 mars 2003, audition du maître chien qui est intervenu le jour de l'enlèvement de Julie et Mélissa et dont l'expertise n'a pas été prise en compte à l'époque. Pourtant, son chien avait tracé le bon parcours depuis le pont de l'autoroute jusqu'en bas sur la bande d'arrêt d'urgence au pied du pont. 7 avril 2004, lors de l'audience, un voisin de l'hôtel Brasil explique qu'il a vu Anne et Effieux à l'hôtel Brasil avec Marcel Marchal alors qu'il rentrait chez lui. Ce soir-là, j'avais été manger au restaurant. En revanche, je mets ma voiture dans le garage, en face de ma boucherie. Je sors du garage et je vois Marcel Marchal devant ma porte. D'abord, je m'arrête, mais il y avait 2 filles avec lui et un homme, et j'ai pensé qu'il ne pourrait pas m'attaquer puisqu'il y avait des témoins. Alors, je traverse et je vais jusqu'à ma porte. Il se trouvait à 50 cm de moi. Les 2 filles étaient à côté de lui. J'ai été très étonnée de voir ces jeunes filles car elles ne ressemblaient pas du tout à des prostituées. J'ai encore regardé le visage de ces 2 filles pendant plusieurs secondes, mais je n'ai pas attendu mon reste et je suis restée chez moi. 2 ou 3 jours plus tard, alors, lorsque j'ai vu dans un journal la photo des 2 jeunes filles qu'on recherchait, je les ai parfaitement reconnues. C'était Anne et Effieux. Il est possible que l'homme en leur compagnie était Dutroux. En 1996, une instruction a été ouverte contre Marshall qui a été soupçonné de trafic d'êtres humains, dont les coordonnées se trouvaient dans le carnet de Dutroux, puis il s'est enfui en Amérique latine. 20 et 21 avril 2004, après Laetitia Delez, qui a demandé à Dutroux de confirmer ce qu'il lui avait dit au sujet du réseau et des commandes de Newell, c'est Sabine Dardenne qui lui demande pourquoi elle n'a pas été envoyée dans ce réseau dont il leur parlait alors si souvent, mais qui a totalement disparu au fil de l'instruction. Les deux jeunes femmes ont affirmé n'avoir vu personne d'autre que Dutroux durant leur séquestration, mais il est vrai qu'elles étaient souvent droguées, très souvent droguées. 30 avril 2004, au procès Dutroux & Co, un couple de voisins de Dutroux évoque ce qu'il a vu pendant la période de détention de Dutroux, alors que les petites Julie et Mélissa étaient a priori dans la cave de la maison de Marcinelle. Weinstein est venu plusieurs fois, notamment avec Michel Martin. Il y a aussi le docteur C, qui était le médecin de Bruno Tagliaferro, et a déclaré que celui-ci a déclaré officiellement mort d'une crise cardiaque, n'était pas cardiaque, et a rapporté les propos d'un de ses clients. Il y a environ un mois, alors que je me trouvais chez un client, le nommé Source Pietro, d'Auvelay, celui-ci m'a déclaré qu'un certain S, Louis, était détenu pendant 2 ou 3 jours, aurait détenu pendant 2 ou 3 jours les petites Julie et Mélissa, et cela en son domicile près du cimetière de Lambussard. 10 mai 2004, audition des 3 témoins de moralité pour Michel Martin. Déjà en 2004, les gens qui s'occupent d'elle à la prison ne lui trouvent que des qualités. Par exemple, l'aumônière protestante Patricia M. déclare qu'elle était intéressée par l'étude de la Bible. Il y avait chez elle une très grande souffrance. On la sentait engluée comme dans une toile d'araignée. Elle m'a raconté sa vie avant, maltraitée, menacée, battue par son mari, très seule. Elle devait garder tout cela pour elle. Elle était esclave de cet homme. Il n'y avait pas moyen de faire autrement. Et quand elle raconte tout ça, elle revient constamment sur le problème de ses enfants. Cela a duré quelques mois, puis elle a commencé à réagir. Elle considérait les auditions avec les enquêteurs comme un travail. Je lui disais « Tu dois dire toute la vérité. C'est ce que je fais. Et je dois dire que je n'ai jamais entendu une contradiction dans ses dires. » Une véritable relation d'amitié s'est établie. Sa mère était dérangée et malade, et s'est vraiment préoccupée de sa mère. Elle s'est vraiment préoccupée de sa mère jusqu'au bout. Elle s'est battue pour voir ses enfants. Elle a construit une relation solide avec eux. Elle a établi une bonne relation avec un neuropsychiatre. Douce, intelligente, elle lit beaucoup et ça l'aide certainement. Elle cherche à comprendre. Au niveau de la foi, elle étudie la Bible. Ce n'est pas la même foi que la mienne. Elle ne veut plus se laisser manipuler par quiconque, mais la foi, c'est personnel. Cécile T., sa prof de dessin, est aussi des plus élogieuses. Je constate un désir de reconstruction, de s'en sortir pour retrouver une certaine paix, un équilibre. Je relate aussi le témoignage d'autres détenus avec lesquels une relation d'amitié sincère a pu se créer, une tolérance à sa vie de prison. Elle lutte pour ses enfants, pour leur apporter l'équilibre dont ils ont besoin. Elle veut aller vers le bien et elle a un souhait de vérité. 13 mai 2004, on découvre lors de l'audience que la quasi-totalité des témoignages au sujet de Lelièvre ont été écartés, notamment tous ceux qui portaient sur ses liens avec le milieu du trafic de drogue ou qui montraient son côté manipulateur. Ceci car il a été décidé par le magistrat instructeur que tous les témoignages relatifs à la drogue faisaient partie d'une autre enquête et que nous n'avions pas à nous en occuper, selon le parquet. Du coup, tous les témoignages sur les liens de Lelièvre avec la drogue, y compris ceux sur sa relation avec Mule et Casper Fière, ont été écartés du volet enlèvement. Quant à l'expertise psychiatrique, elle a conclu que Lelièvre est un petit psychopathe, pas dangereux s'il est seul. Mais il ne comprend pas pourquoi il est resté si longtemps en prison et ne se considère pas tellement impliqué dans les faits. L'Observatoire citoyen s'interrogeait au sujet de Lelièvre, qui n'a jamais été poursuivi pour viol. Pendant cette terrible période qui dura de juillet 95 à août 96, les nombreux témoins à avoir rencontré les inculpés, qu'il s'agisse de Michel Martin ou Michel Lelièvre, leur ont parlé d'une façon ordinaire. Ils les ont vus, l'une dans ses relations maternelles avec ses enfants, l'autre dans ses projets d'avenir. Ceci apporte la preuve qu'à tout moment, le carrousel infernal aurait pu être arrêté. Et c'est là le véritable mystère que ni les rapports de moralité, ni les expertises psychiatriques, ni l'influence ou la peur de Dutroux, ni souvent évoquées, ne peuvent expliquer. Comment expliquer cette permanence dans les faits de non-assistance à enfants en danger, particulièrement pendant la période d'incarcération de Marc Dutroux, qui ne peut alors exercer une influence directe sur ses complices? Seul, isolé, Marc Dutroux aurait pu être dénoncé. En revanche, si l'on prend en compte d'autres peurs, la crainte de Michel Nioul en particulier, peur exprimée dans les premières auditions de Michel Lelièvre et de Michel Martin, juste après leur arrestation, leur paralysie peut commencer à s'expliquer. 26 mai 2004, le procureur Bourlet répète que selon lui, Nioul était le commanditaire de l'enlèvement de Laetitia Delez, mais les jurés n'en ont pas tenu compte. 22 juin 2004, verdict. Les pistes menant vers un réseau éventuel seront suivies dans un dossier bis, mis à l'instruction. Il faudra une dizaine d'années pour détricoter totalement ce dossier bis qui contenait en réalité l'essentiel de l'affaire. L'après-procès, le puzzle se complète. 30 juin 2004, Fourniret avoue l'enlèvement et le meurtre d'Elisabeth Brichet et désigne l'endroit où il l'a enterrée, dans le parc de son château du Sautou, tout près de la frontière belge, dans les Ardennes françaises. Il a avoué 5 autres meurtres le jour même. 23 novembre 2004, la chambre des mises en accusation rend un arrêt selon lequel toutes les recherches qui devaient être faites dans le cadre du dossier bis devaient être définitivement arrêtées. Clôture définitive de l'instruction sur les pistes connexes de l'affaire Dutroux, pourtant promise aux victimes et aux citoyens lors du procès. Le Nouvel Obs se commentait dans un article du 1er décembre. La clôture de ce dossier qui autorisait les enquêteurs à continuer à rechercher d'éventuels complices inconnus du pédophile met un terme définitif à la théorie du réseau aux yeux de la justice. La thèse selon laquelle Marc Dutroux aurait agi pour le compte de pédophiles ou aurait bénéficié de soutien de l'État était très répandue en Belgique jusqu'à l'ouverture du procès en mars 2004. Après 4 mois d'audience qui n'ont apporté aucune révélation fracassante, les jurés ont mis fin à cette hypothèse. Marc Dutroux, selon la justice belge, n'aurait reçu l'assistance que de son épouse de l'époque, Michel Martin, et d'un jeune marginal, Michel Lelièvre. 11 avril 2005, procès de plusieurs trafiquants de voitures dont Dutroux. Dans ce procès, il y a eu des accusations contre le policier Georges Zico et Pascal Prévedello, chargé en général des trafics de voitures à Charleroi. Ils ont été attaqués sur la qualité de leur travail et Zico a été clairement soupçonné d'avoir protégé Dutroux. Certains magistrats ont prêté crédit à ces rumeurs, comme le procureur général Demanet, dont le fils était au centre d'une escroquerie à l'assurance vol de voiture, comme également le juge Conroth à Neuchâteau qui a été manipulé par la gendarmerie. Cette affaire a eu lieu sur fond de guerre police-gendarmerie avec la fusion des deux dans la police. Selon l'Observatoire citoyen, il y a la Porsche du fils du procureur général. Philippe Demanet vivait à cette époque avec son père. C'était quotidiennement qu'il pouvait parler de cette affaire. Le fils avait tout avantage à salir le policier. Et quand une plainte lui arrive, dont la cible est Zico, le père, procureur général, la crédibilise au point qu'il fera déplacer non seulement l'inspecteur Zico, mais également les substituts Marlière et Labarre. Cette suspicion de base corrompt l'accusation et engendre des méthodes inhabituelles, au point qu'avant la mise à l'instruction, on fait filmer par caméra cachée une rencontre entre Zico et l'agent de la compagnie d'assurance, sans doute pour obtenir un flagrant délit, il n'y en aura pas. Avril 2006, libération de Nioul. Janvier 2009, des analyses de cheveux sont relancées dans le cadre du dossier bis. 22 avril 2009, la Cour de cassation octroie une grosse indemnité à Georges Zico pour ses 35 jours de détention préventive subis entre le 24 août 1996 et le 27 septembre 1996. Dans son arrêt, la Cour de cassation dit que le policier qui a été acquitté à Nivelles de toutes les préventions liées à l'affaire Dutroux fut arrêté dans des conditions particulièrement traumatisantes pour lui et ses proches. Elle souligne le caractère inhumain du traitement dont Georges Zico, présumé innocent, fit l'objet, selon le journal 7 sur 7. 18 janvier 2010, le procureur de Liège, Cédric Vizard de Beaucarmé, demande un devoir d'enquête au tribunal de Neuchâtel à propos de l'analyse des cheveux trouvés chez Marc Dutroux. En effet, deux cheveux n'avaient pas été identifiés et ont fait l'objet d'examens complémentaires. Les analyses ont permis l'identification complète d'un cheveu et l'identification partielle du second. 21 janvier 2010, le procureur de Liège annonce que le dernier cheveu retrouvé dans la cache de Marcinelle, posé question, appartient à une enquêtrice de la police scientifique. Il déclare avoir été au bout des investigations pertinentes et réitère sa volonté de ne pas traîner inutilement en longueur ce dossier. Cette affaire de cheveux ressemble à celle des cassettes vidéo Célie chez Dutroux et consorts. Il était au début question de 6000 cheveux prélevés dans la cache, à 55, puis un seul, pour lequel on a eu des résultats d'analyse. Bref, on se prépare à classer sans suite le dossier bis, dont l'enquête avait été réduite à cette histoire de cheveux. 6 juillet 2010, perquisition à l'archevêché et au domicile de Monseigneur Danils, où les policiers trouvent des documents relatifs à l'affaire Dutroux sur deux CD-ROM. Danils avait notamment conservé des photos des autopsies de Julie et Mélissa. On a d'abord dit que c'est Mailleux qui avait donné ces photos, et une enquête a même été ouverte contre lui à ce sujet, avant de parler d'un tiers. Finalement, on a dit que c'était arrivé par la poste et que ces documents avaient été conservés. Mai 2011, le tribunal d'application des peines de Mons accorde la liberté conditionnelle à Michel Martin, qui peut donc mettre en marche le processus de réinsertion préalable. 19 avril 2002, le député Laurent Louis organise une conférence de presse pour alerter sur l'étouffement du dossier du Trobis. Il montre le dossier et les photos d'une des autopsies de Julie et Mélissa pour dénoncer la théorie officielle qui veut qu'elle soit morte de faim. Suite à cela, c'est le scandale en Belgique. Tout le monde est outré, non pas des questions sur la fin tragique des fillettes, mais que ce député ait osé poser la question de cette affaire que tant de monde espérait bel et bien enterrer. 31 juillet 2012, les bonnes sœurs du couvent de Malone, près de Namur, annoncent être d'accord pour héberger Michel Martin. En effet, elle pourra être libérée très rapidement si elle est bien domiciliée dans ce couvent et reste à l'écart des familles de victimes. 21 août 2012, plainte contre Michel Martin pour avoir organisé son insolvabilité afin de ne pas verser les indemnités aux victimes, selon l'avocat du plaignant, le père Defieux. Pour que son héritage soit transmis à ses enfants, Michel Martin, 52 ans, avait transmis l'héritage de sa mère directement à ses enfants, indique Le Soir. Si elle a enfreint la loi, elle risque 2 ans de prison. Nous sommes aujourd'hui en 2022 et désormais et jamais elle n'est retournée en prison. 28 août 2012, libération de Michel Martin, 52 ans, après avoir fait 16 ans de prison sur les 30 auxquels elle a été condamnée. Cela faisait 5 ans qu'elle réclamait sa libération conditionnelle, initialement pour aller dans un couvent en France. Cela a été refusé. C'est un ex-juge d'instruction qui l'a aidé à sortir plus tôt en lui trouvant un hébergement dans un couvent où elle n'est restée que quelques jours avant de vivre sa vie. En 2017, le juge Christian Panier a osé demander aux familles des victimes de pardonner à Dutroux et ses complices. Pour la libérer, la Cour de cassation a rejeté des recours déposés par les parties civiles et le parquet. Elle a cru au projet de réinsertion de Michel Martin. Elle devait aussi trouver un stage. Comme elle a passé des diplômes de droit, elle doit faire un stage chez un avocat. Reprendre une thérapie, indemniser les victimes et participer aux tâches quotidiennes du couvent dont elle avait l'autorisation de sortir quand ça lui chantait. 2013, début des libérations conditionnelles de Lelièvre. Juin 2013, on apprend que les sœurs des Clarisses veulent virer Michel Martin car finalement, elle ne serait pas si pieuse que ça et ne participait pas à la vie de la communauté. Apparemment, elle passait son temps à ne rien faire, comme si elle était dans un hôtel gratis. 9 janvier 2014, voyage de Michel Martin dans la région de Florence en Italie, officiellement pour rencontrer les responsables d'un couvent de la communauté religieuse Cristo e la Riposta, afin d'y être hébergé. Officiellement, les sœurs qui l'hébergent vont bientôt déménager vers Bruxelles et ne souhaitent pas qu'elle les accompagne. Le responsable de la communauté, le pasteur canadien Paul Schaffer, avait expliqué. « Nous ne savons pas exactement quand elle viendra. À ce stade, nous n'avons pas encore discuté d'une future résidence permanente chez nous. Il est d'abord question d'un séjour de 5 à 7 jours pour qu'elle puisse réfléchir et se reposer un peu. C'est bien un groupe évangélique belge que j'ai répondu favorablement à sa demande. Nous savons qu'elle est sous pression médiatique en Belgique et nous sommes d'accord pour lui offrir une retraite spirituelle dans notre groupe, rien de plus. Le tribunal de l'application des peines de Mons lui avait accordé le 2 janvier une autorisation de 7 jours pour ce petit voyage réalisé avec on ne sait quelle ressource. Fin janvier 2015, on apprend que Michel Martin va quitter le couvent des Clarisses car les bonnes sœurs déménagent à Bruxelles sans elle et vendent le bâtiment. Apparemment, elle ne sait pas vraiment où aller, le départ est précipité. 31 mars 2015, l'ex-juge Panier, également ex-candidat du PTB aux Européennes, déclare à la RTBF, la chaîne de télé nationale, qu'il a obtenu l'autorisation du tribunal pour héberger Michel Martin. Chez Christian Panier, Michel Martin aura un appartement indépendant, elle s'y installera dans les prochains jours et a déjà commencé à déménager. Il y a quelques mois, une tentative de s'installer en France avait échoué en raison du refus du ministre de la Justice qui craignait des troubles à l'ordre public en cas d'arrivée de l'ex-épouse de Marc Dutroux, relatait France 3 Hauts-de-France. Décembre 2016, Annick Lucas, autre survivante du réseau pédocriminel belge, témoigne publiquement. Elle vit désormais aux États-Unis et commence à parler de son histoire et les violences subies dans les années 70. Sa mère l'a introduite dans le réseau quand elle avait 6 ans et ses parents l'a menée à des partous dans les villas où il y avait des gens riches, des aristocrates, des politiciens, des truands. Elle décrit des viols et meurtres d'enfants. Parmi les tortionnaires, elle cite Newell, qu'elle qualifie d'intermédiaire, Dutroux, qui était un souteneur pour le réseau, Van den Boynens, Patrick Hammers. Elle explique que ce réseau était d'abord un système de corruption et de chantage destiné à piéger des personnalités. Il y a 2 ou 3 jours, le témoignage d'Annick Lucas a été diffusé sur le net. Cette Belge originaire de Bruxelles se présente comme une survivante de trafic sexuel. A fondé en 2014 Libération Prison Yoga afin d'aider d'autres victimes. 28 mai 2018, un ancien leader d'extrême droite explique publiquement que Van den Boynent était un véritable chef de l'organisation terroriste d'extrême droite Westland New Post. 23 octobre 2019, mort de Newell à 78 ans. Il vivait sur la côte belge depuis sa sortie de prison. 2 décembre 2019, libération de Michel Lelièvre, 48 ans, sous condition qu'il trouve un logement dans les 6 mois, qu'il trouve une formation, etc. Il a d'abord dormi dans un centre pour SDF à Bruxelles alors qu'il devait louer son appart. Il devait de toute manière être libéré en 2021. Lelièvre a toutefois pu se balader tranquillement dans les rues de Belgique et a été tabassé plusieurs fois depuis sa sortie de prison. Janvier 2020, Michel Martin obtient un diplôme de droit, une licence. À ce moment-là, elle vit toujours dans un petit studio grâce aux allocations du CPAS, Revenu d'intégration sociale. Si elle continue à respecter les règles de liberté conditionnelle, elle sera vraiment libre en 2022. À ce moment, elle vit des aides sociales du CPSA qui correspond au RSA. Et tout récemment, un article dans le numéro 5 de l'Envers des Affaires, le 5 janvier 2022, est sorti, que nous vous invitons à découvrir pour compléter vos connaissances sur cette affaire. Le réseau du trou s'achève ici pour l'instant. Au revoir.